Alors, je vais continuer sur le thème de la souffrance. Donc, je rappelle un petit peu ce que j'avais dit il y a maintenant une dizaine de jours, je crois. J'avais commencé, vous savez, à vous parler d'Ecclésias chapitre 2, versets 22 et 23, où je le relis, hein, vite fait, il est dit: « Que revient-il en effet à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur et son partage n'est que chagrin. Même la nuit, son cœur ne se repose pas, c'est là une vanité. » Je vous avais parlé du fait que le mot vanité, la part d'une vapeur, d'un souffle, de quelque chose qui parle un peu du néant, si vous voulez, qui est vide. Et ça, c'est une souffrance. Job, le chapitre 7, verset 16, il dit que « Laisse-moi, car ma vie n'est qu'un souffle. » Donc parfois, le découragement engendre une souffrance, évidemment. Et qui n'est pas lié uniquement là au péché, mais qui est lié à la difficulté de la vie, et qu'il ne faut pas nier, qui sont là. Et Dieu se permet cela pour nous aider à avancer dans la sanctification. Et je vous avais dit aussi que une des raisons pour lesquelles nous souffrons, c'est notre péché, non seulement le constat que l'on fait de notre cœur, hein, de notre âme, de ce que l'on est capable de faire ou de penser, mais aussi se rajoute la souffrance qui est liée aux conséquences de notre péché. Non seulement on peut avoir une forme de désolation intérieure, et objectivement on se rend compte de ça, et ça nous attriste même, et puis d'un autre côté on réalise aussi que ça peut entacher nos relations avec les autres, nos rapports avec les autres. Et puis troisième point, parler du péché, c'est que les autres pêchent aussi. Ce qui fait que nous-mêmes, on peut être blessés, offensés, déçus du comportement de certaines personnes. Donc ça, c'est une autre source de souffrance que l'on ne peut pas forcément enlever non plus, parce que le péché existe, il est là. En revanche, bien évidemment et heureusement, en tant que chrétien, Dieu nous a donné je dirais, les armes nécessaires. Rappelez-vous, hein, dans l'armure du croyant, dans Éphésiens, il est parlé de l'épée de l'esprit, et donc nous avons et du bouclier de la foi qui est pas une arme, c'est plutôt défensif, mais néanmoins ça nous protège. Et donc la foi, et là quand il est parlé de la foi, c'est évidemment la doctrine. On est protégé par la doctrine et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, puisque dans Éphésiens, Paul donne le sens du mot épée. C'est l'épée, c'est la parole de Dieu. Et donc on voit que dans les deux cas, que ce soit la défense ou l'attaque, la parole de Dieu est utile. La parole de Dieu est là pour me défendre des accusations du malin, des dards enflammés du malin. Je rappelle que les Romains, hein, ils avaient plusieurs sortes de boucliers, mais notamment un des boucliers qu'ils utilisaient, c'est des boucliers en bois, un bois assez solide malgré tout pour se protéger des attaques frontales. Mais l'avantage du bois, c'est que parfois il y avait des attaques qui étaient faites par les ennemis avec des flèches enflammées, et donc avant le combat, ils inondaient le bouclier avec de l'eau, ce qui fait que le bois était complètement humide, et ce qui fait que les flèches se plantaient dans le bois et s'éteignaient tout de suite. Ça, c'était une arme défensive. Et rappelez-vous que Paul utilise justement ce langage guerrier, puisqu'il parle du diable et de ses attaques comme des dards enflammés. Donc les dards enflammés du malin sont envoyés, le ministère d'accusation, contre nous, qui nous fait souffrir, mais nous avons le bouclier de la foi qui permet d'éteindre, d'étouffer ces flammes. Et puis on peut aussi, je dirais, être offensif, c'est-à-dire prendre des décisions, des résolutions, avoir des convictions, et là ça parle de la parole de Dieu, mais comme étant quelque chose de beaucoup plus offensif. On retrouve d'ailleurs cette idée dans l'Ancien Testament. Dans un des psaumes que j'ai pas en tête, là, je suis en train d'improviser, mais le psalmiste dit: Ton bouclier et ta rondache me protègent. Et le bouclier, c'est le bouclier tel que nous l'imaginons, c'est-à-dire c'est le côté défensif. Alors ça, c'est à l'époque des Hébreux, vous voyez, c'est pas au temps des Romains. Donc eux, ils avaient des boucliers défensifs en métal, en règle générale. Donc il dit, ta parole est Enfin, il parle de la parole et de l'Éternel comme étant son bouclier et sa rondache. Donc le bouclier, c'est en effet une arme défensive, de protection. Et la rondache, là encore, c'est quelque chose d'offensif, parce que c'était également un bouclier qui était rond, mais je ne sais pas si vous avez vu ça dans des films, le bouclier est rond, mais au milieu, il y a une pointe qui ressort au centre du bouclier. Et en fait, ça permettait aux soldats, lorsqu'ils avançaient, de cogner enfin de s'appuyer ou de lutter avec les soldats adverses. Et c'est que la pointe de la rondache s'enfonçait dans le corps de l'adversaire. Donc du coup, le bouclier n'était plus, dans ces cas-là, une arme défensive, mais une arme offensive. Donc dans ce psaume, on voit que le bouclier, la rondache, parle de la défense et de l'attaque. Dans Éphésiens, cette même parole est comparée donc à un bouclier et à une épée. Donc on a heureusement ces armes qui nous permettent d'avancer dans la vie chrétienne, dans ce processus de sanctification. Mais néanmoins, le péché est là, c'est-à-dire qu'on est obligé de reconnaître que il y a non seulement le péché en nous, il y a le péché autour de nous, il y a les conséquences du péché. Donc ça engendre des réactions de culpabilité. Vous avez parlé du psaume 51, verset 3, où il est dit, David dit, je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Et la solution, psaume 16, verset 8, on est toujours dans la révision du message là dont je parle, où le psalmiste écrit au psaume 16, verset 8, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux, quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Donc, vous voyez, soit on a le péché devant nos yeux, soit on a l'Éternel devant nos yeux, et c'est ce qui va faire évidemment la différence. Alors, ensuite, on s'est arrêté là. Maintenant, j'aimerais vous parler aussi d'une autre blessure et de souffrance qui est la conséquence là aussi du péché et de mauvaises décisions. C'est la souffrance qui est liée. Alors, ça part du péché, mais là, c'est un aspect du péché plus particulier, et ça parle de nos pensées. C'est-à-dire que nos pensées naturelles, charnelles, nous font souffrir. Ce qu'il y a dans notre tête est souvent une source de souffrance. En Éphésiens 4, pourtant, Paul nous encourage à vivre autrement. Hein. Rappelez-vous, il écrit aux Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Éphésiens 4, versets 17 et suivants. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous voyez, ça c'est un point important, c'est un rappel pour certains, je l'ai enseigné de nombreuses fois durant toutes ces années, mais on est souvent le produit de nos décisions et nos décisions sont le produit de nos pensées. Donc la guerre commence dans les pensées. Il en est par exemple de même concernant la foi en Dieu ou pas. C'est-à-dire que les gens vont accepter de se convertir parce qu'à un moment donné, leur pensée va changer. Le regard concernant l'Éternel et Jésus-Christ en particulier va changer. Et donc, parce que la pensée est renouvelée, des décisions sont prises, les gens se convertissent et ensuite, leur emploi du temps change, ils se mettent à fréquenter une assemblée, par exemple. Leurs relations changent, ils commencent à avoir beaucoup plus d'affinités avec les frères et sœurs dans l'église locale dans laquelle ils se rendent. Et donc, on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées. Et c'est pas parce qu'on s'est converti qu'on est exempt de pensées païennes. Hein, si Paul dit, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées, ça sous-entend qu'il y a un risque de marcher selon la vanité de nos pensées. Et là, le mot vanité est intéressant. Alors, c'est en grec, c'est pas en hébreu. C'est mataiotes. Ça parle de quelque chose qui est dépourvu de vérité et de convenance. Et ça parle d'une dépravation, mais d'une fragilité aussi, qui est presque, comment dire, on peut presque pas y toucher, vous voyez, tellement c'est fragile. C'est quelque chose qui, et moi, ça renvoie, je crois, à cette idée dans l'Ancien Testament de souffle. Rappelez-vous, quand il est parlé de vanité en Ecclésiaste 2, hein, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est dit que toutes les préoccupations de son cœur, en parlant de l'homme et son travail, ne sont que vanité. Et le mot vanité en hébreu parle en effet de vapeur, de souffle. Et là, le mot vanité, c'est quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de constance, qui est dépourvu de vérité, et donc qui est très fragile. Et ça, c'est la vanité des pensées païennes. Et combien de fois on est obligé de reconnaître que nous avons des pensées vaines. Des pensées vaines qui ne... ça sert à rien. Par exemple, je peux toujours m'apitoyer sur mon sort, mais c'est vain de s'apitoyer comme ça. Ça ne changera pas forcément la situation. Et donc j'ai besoin, alors que la situation ne change peut-être pas encore, mais mes pensées doivent changer vis-à-vis de cette situation. On connaît tout ce verset de Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bah, à partir du moment où il m'arrive un événement qui ne me plaît pas, qui me fait peut-être souffrir, mais si ma pensée est renouvelée et que je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je vais vivre la situation de façon complètement différente. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Je peux aussi, alors que j'ai peut-être un tempérament un petit peu défaitiste, où je vais baisser assez souvent les bras, ben, si je suis renouvelé dans ma pensée, je peux commencer à prier, par exemple, et que la prière du juste est d'une grande puissance, nous dit l'apôtre Jacques. Et donc, je vais commencer à prier et croire que Dieu peut faire quelque chose. Donc là aussi, c'est renouvellement, pardon, de ma pensée. Parce que si ma pensée n'est pas renouvelée, si je pense selon la vanité de mes pensées, je vais vivre comme un païen où il y aura un manque de foi, il y aura une dépression, il y aura découragement, il y aura amertume, etc., système de comparaison, et j'en passe. Donc c'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire que une de part importante de nos souffrances est très souvent liée à nos pensées. La preuve, c'est que des fois, quand on est tout seul, on souffre quand même. Il n'y a pas que les autres qui nous font souffrir. Donc, ce qui montre bien que ça commence à l'intérieur de nous. Et le psalmiste le dit bien, d'ailleurs, au psaume 40, verset 12, et il dit « Car des maux sans nombre m'environnent, les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. » Tiens, d'ailleurs, ça m'amuse parce que Jésus en Matthieu dit qu'il peut compter les cheveux de nos têtes. Mais par contre, là, le psalmiste dit au verset 12, les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue, ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Mais moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que Jésus ne compte plus mes iniquités et mes péchés. Il compte les cheveux de ma tête, mais il a oublié mes péchés. Ça, c'est quand même extraordinaire. Parce que le psalmiste, lui, quand il est démoralisé, va dire qu'ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Mais moi, j'ai l'assurance en tant que croyant je crois que Dieu ne compte pas ça. Il compte les cheveux de ma tête, mais il ne compte plus mes péchés. Il ne retient plus l'iniquité dans sa mémoire. Et ça, c'est extraordinaire. Bon, je ferme la parenthèse. C'est juste le lien que je venais de voir de ce psaume 40 avec Matthieu. Mais le point qui est important à avoir en tête, c'est que si je suis comme ça, sans cesse, en train de ressasser mon iniquité, mon péché, mes erreurs, mes regrets, mon passé, je vais vivre d'une manière vaine, en fait. C'est-à-dire que je vais marcher selon la vanité de mes pensées. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien fait ou qu'il ne s'est rien passé, mais là, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ces pensées? Qu'est-ce que je fais avec ces choses-là? Et j'ai besoin, d'être renouvelé. Et d'ailleurs, il continue, Paul, au verset 18, en parlant des païens, il dit, ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Et en fait, nous avons besoin, et alors, ça a déjà été fait en grande partie lors de notre conversion, nous avons été éclairés, et nos yeux spirituels se sont ouverts, mais nous avons besoin de continuer encore de grandir dans cette notion-là, sur ce sujet-là, parce que notre intelligence est parfois obscurcie par moments, et c'est ça qui nous fait souffrir. On s'en rend peut-être pas compte tout de suite, mais vous savez, je me rappellerai toujours, c'est un accident qui m'est arrivé il y a quelques années. Je me levais le matin dans le noir et puis j'ai pas voulu réveiller mon épouse. Et à un moment donné, on venait de déménager là dans l'appartement que nous avons actuellement. Et j'avais installé les étagères en métal, vous savez, d'une armoire pour le linge, pour mettre les vêtements, avec, vous savez, des crémaillères et on attache les étagères en métal. Mais on n'avait pas encore installé le placard, c'est-à-dire le coffrage du placard. Donc les étagères étaient comme ça à ciel ouvert, je dirais. Et donc j'étais dans le noir et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai glissé et en glissant, je me suis cogné l'œil sur le coin de l'étagère en métal. Et ce qui fait qu'il faisait noir, mais je peux vous assurer que j'ai vu un éclair. C'est-à-dire que dans mon œil, il s'est passé quelque chose. C'est qu'après, heureusement, on habite à côté d'une clinique, j'ai pu me faire soigner. En fait, il y a eu un début de décollement de rétine. Mais tout ça pour vous dire, c'est que quand on est dans le noir pendant un temps, tout va bien. Mais à un moment donné, on va souffrir. Et quand on a l'intelligence obscurcie, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire combien de gens souffrent parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Là, je disais, c'est juste une anecdote et aussi, c'est peut-être aussi une information qui peut être intéressante dans les discussions qu'on peut avoir avec les gens. Vous savez, il y a des lois qui vont passer là, qui peuvent ne pas passer. On peut prier pour que vraiment ça ne se fasse pas, mais au niveau de l'avortement, là, il y a des choses qui vont changer, les délais vont se rallonger. Enfin, il y a pas mal de choses qui se passent au niveau des lois. Et il y a une association pro-vie, donc anti-avortement, qui a financé un sondage et a posé certaines questions aux Français. Et l'une des questions, donc c'est un échantillon, les journaux en ont parlé, hein, ils aiment pas du tout cette association-là, mais le sondage enfin, c'est une entreprise extérieure qui l'a fait, donc ça a été avec 1080 personnes, je crois, donc un échantillonnage correct. Et l'une des questions qui était posée, il y en a plein, hein, qui sont très intéressantes, les réponses sont toutes intéressantes, mais celle qui a marqué les journalistes, c'est que 92% des Français pensent que l'avortement provoque des séquelles psychologiques après. Donc, c'est quand même intéressant, connaissant un petit peu le discours qui est donné. Et alors, justement, cette association pointe du doigt, parce que le site gouvernemental qui parle de l'avortement en parle qu'en bien, en disant que il n'y a pas de séquelles, etc. Ils disent quand même que quelquefois, les gens ont besoin de voir un psychologue après. Mais voilà, il n'y a pas ce côté-là. Et alors, je ne sais plus le pourcentage maintenant, mais ce n'est pas autant que 92, hein, c'est un peu moins. Mais une des questions qui est posée, c'est est-ce qu'on devrait faire plus pour les mères? C'est-à-dire que pour encourager les personnes à ne pas avorter, donc aider les futures mamans éventuellement à passer ce cap. Et il y a un pourcentage très important, de mémoire, c'est dans les 80% qui disent que oui, on devrait financer des structures, etc. Et justement, à une époque jusqu'en 2001, le site gouvernemental concernant la contraception présentait des pages sur comment avoir son enfant quand même si on vit une situation difficile, comment être aidé. Et tout ce côté-là, ils l'ont enlevé. Il y a maintenant, il est parlé que de l'avortement comme voilà, un contraceptif de plus. Donc tout ça pour vous dire pourquoi je parle de ça. Parce que quand on a l'intelligence obscurcie, on prend des décisions, mais qui ont des conséquences. Alors nous savons qu'il y a même des conséquences spirituelles, il y a des gens qui auront peut-être à rendre compte hein, de tout ça, mais les gens souffrent, c'est-à-dire qu'il y a des séquelles par rapport à ce genre de vécu, si vous voulez. Et pourquoi les gens souffrent des fois, pourquoi ils sont dépressifs, pourquoi ils ont besoin de se droguer pour certains, de boire pour d'autres, de faire n'importe quoi de leur vie pour oublier certaines choses, parce que leurs pensées, leur façon de voir les choses, la façon de voir la vie, les ont amenés à prendre de mauvaises décisions. Et donc, ils souffrent. Et une autre raison qui nous fait souffrir, et les païens aussi le subissent, c'est qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et ça m'a marqué quand j'ai relu ce passage. C'est que si on est étranger à la vie de Dieu, on est malheureux. Je veux dire, on a été créé à l'image de Dieu. Donc on a besoin d'être non pas étranger à la vie de Dieu, mais ami de la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu qui doit nous animer. Et encore une fois, le thème de la souffrance sous-entend que la vie n'est pas toujours facile, bien entendu, mais on a une intelligence renouvelée qui nous permet de vivre ces souffrances différemment et surtout de ne plus être étranger à la vie de Dieu. Et il est dit, là, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux. Donc, vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révélation. Et entre parenthèses, on peut remercier Dieu pour les révélations qu'il nous communique. On peut remercier Dieu que le Saint-Esprit nous ait convaincus de nous tourner vers lui. On peut remercier Dieu d'avoir le Saint-Esprit qui nous parle. On peut remercier Dieu d'avoir le Saint-Esprit qui nous attriste, qui est attristé en nous parfois, ou des fois qui lutte contre nous, qui nous inspire par d'autres moments, qui nous aide à d'autres moments, qui nous aide à comprendre des écritures, qui nous aide à discerner le sens spirituel des choses. Je veux dire, on peut remercier Dieu, c'est quand même extraordinaire d'avoir ce Dieu qui a permis que nous soyons plus étrangers à la vie de Dieu. Et qu'il n'y ait plus d'ignorance. Là, il dit, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en nous. On peut remercier Dieu de nous équiper, non pas parce qu'on est mieux que les autres, mais on n'est pas ignorant. On n'est pas, par exemple, Paul dit qu'on n'ignore pas les desseins du diable. Vous imaginez? Et d'ailleurs, on ferait bien des fois de s'attarder un petit peu sur le combat spirituel, parce que Dieu ne veut pas qu'on soit ignorant de ça. On n'est pas ignorant de nos origines. On n'est pas ignorant des causes du péché. On n'est pas ignorant de ce qui nous attend dans l'éternité. On n'est pas ignorant du moyen que Dieu a, la manière dont Dieu nous a sauvés et le fait qu'il nous ait envoyé son Fils. C'est quand même extraordinaire. Nous ne sommes pas ignorants. On a été équipés. Et cette connaissance, si vous voulez, qui n'est pas encore une fois liée à notre intelligence ou à une quelconque supériorité, qui est liée à la révélation que nous avons eu la grâce de recevoir. Et les païens, eux, ils sont ignorants, il y a une ignorance en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et voyez, c'est là où on doit nous sonder le nôtre. C'est que quelqu'un qui est endurci reste ignorant. Il peut écouter ou lire sa Bible et entendre la parole de Dieu, mais l'endurcissement engendre de l'ignorance qui elle-même est un parallèle à une intelligence obscurcie qui fait qu'on est étranger à la vie de Dieu parce qu'on est charnel. Alors on n'est plus païen, on est croyant, mais n'empêche que l'homme charnel peut vivre comme un païen malheureusement, il peut penser comme un païen. Et alors après, ça, les conséquences, verset 19, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté, pardon, jointe à la cupidité. Donc là, le point qu'il faut avoir en tête, c'est que je ne peux pas contrôler tout ce qui m'entoure. Il y a même des choses en moi que je ne connais pas, que je ne connais pas, et donc c'est Dieu qui des fois les révèle par telle ou telle situation. Mais le point là, c'est que on a besoin d'avoir en permanence une pensée renouvelée. Et si on ne pense pas avec Dieu, on est malheureux. Si notre intelligence est obscurcie, nous sommes malheureux. Et en faisant mon étude, là, alors c'est un contexte très particulier parce que c'est durant la déportation babylonienne et ça parle de, enfin, il nous est parlé là d'un événement avec le prophète Daniel qui avait, on le sait, un ministère particulier. Mais regardez un petit peu comment le processus, même dans la vie de Daniel, même cet homme qui était appelé par Dieu, qui était un prophète, donc, mais regardez un petit peu ce qui se passe. C'est au chapitre 9 du livre de Daniel, versets 20 à 22. Daniel chapitre 9, versets 20 à 22. Je parlais encore, donc il est dans son ministère prophétique, vous voyez, il agit. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Donc là, on voit que le prophète parle de sa vie, donc il met sa vie en règle devant Dieu, et puis il intercède pour les autres. Et donc il confesse le péché du peuple, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Ensuite, il continue, je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Verset 22. Il m'instruisit, il s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Et ce qui est très intéressant, c'est que nous avons cet homme qui déjà a reçu des révélations, mais qu'est-ce qui se passe là? Il met son moi de côté, il confesse son péché, il s'identifie aussi au péché du peuple. Et que se passe-t-il à ce moment-là? Il a une révélation supplémentaire. Il est instruit. Alors l'ange là, c'est Gabriel, c'est pas Dieu lui-même, c'est pas l'ange de l'Éternel, c'est pas une théophanie, mais c'est quand même l'envoyé de Dieu. On voit que cet ange va l'instruire et va s'entretenir avec lui. Et pourquoi? Pour ouvrir son intelligence. Et c'est intéressant parce que quand on regarde à Daniel, alors Daniel, il connaissait déjà les Écritures et donc il avait eu des révélations par les prophètes qui l'ont précédé notamment. Il avait l'assurance, par exemple, que la déportation allait durer 70 ans. Il le savait, ça, grâce à la révélation que Dieu a faite à Jérémie. Mais voilà, il était déporté. En plus, il avait une position particulière. Il servait l'empereur et le monarque. Et donc, là, à la moindre faute, ça faisait pas de, on lui faisait pas de cadeau. Il le savait. Rappelez-vous, il s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Ses amis se sont retrouvés dans la fournaise. Enfin, je veux dire, ça rigolait pas. Mais c'est quand même extraordinaire de savoir que sa situation n'a pas changé. Je veux dire, Daniel, on ne sait pas exactement comment il est mort, mais toujours est-il qu'il n'est pas retourné, lui, en terre promise. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a pu traverser cette vie parce que il a été instruit par Dieu, il a été son intelligence a été ouverte, et donc il a eu une vision de sa vie qui était une vision d'en haut, si vous voulez, une vision céleste. Son quotidien n'a jamais changé. Il a toujours été déporté, il a toujours dû travailler pour les autres. Après, quand Nebuchadnezzar plutôt Belshazzar a été, comment dire, battu par Darius, et donc il y a eu un changement de dirigeant, ben, il s'est retrouvé après avoir servi les Babyloniens, ben, à servir les Mèdes et les Perses. C'est-à-dire que sa situation n'a pas changé, il n'a pas été délivré, il n'a pas été libéré. Néanmoins, il a pu traverser cette situation, je le crois fermement, d'une manière beaucoup plus posée et paisible, parce qu'il a eu une révélation, une intelligence ouverte, si vous voulez. Et c'est cela dont nous avons besoin. C'est-à-dire que la souffrance est souvent liée à l'ignorance. Il en parle, Paul, dans Des Païens, on l'a lu tout à l'heure, mais pour nous, c'est un peu la même chose. Vous savez, l'être humain a besoin de définition. Il a besoin de catégories aussi, de classer les choses. Ça, c'est un autre sujet, j'ai pas le temps d'en parler maintenant. Mais il a aussi besoin de définition. Et lorsqu'il y a une définition sur les choses, bah, ça nous permet d'avancer. D'accord? Et de prendre des décisions en conséquence. En revanche, quand on ne fait pas comme Daniel, alors je sais que Daniel, encore une fois, c'est une situation particulière. Ce n'était pas quelqu'un qui vivait dans l'adultère, qui était un calomniateur, etc. Mais il savait de toute façon que, comme tous les autres, il y avait le péché en lui. Et donc il le reconnaissait. Et on voit le processus spirituel dont on peut s'inspirer. C'est-à-dire qu'il y a une révélation suite à cette confession. Mais nous, lorsque nous n'isolons pas le péché, qu'est-ce que ça signifie isoler? Pasteur Sylvain utilisait souvent ce verbe il l'associait à la confession et au péché. C'est qu'en fait, quand je ne me confesse pas, je n'isole pas mon péché. C'est-à-dire que je suis menteur, par exemple, et je continue de mentir, et même si j'ai menti hier, je ne me suis pas repenti de ce mensonge. Donc il est toujours associé à moi. Et ça me fait souffrir. Même si j'y trouve un avantage apparent dans le mensonge, n'empêche que ça me fait souffrir. Et en revanche, quand je me repens, qu'est-ce que je fais? Je confesse mon péché, déjà, donc je m'humilie, je définis les choses, je dis ça, c'était pas bien, je le confesse. Deuxième chose, je ne m'associe plus à ce péché, pourquoi? Parce que je sais que Christ a porté ce péché-là sur son corps, sur le bois. Je sais qu'il a payé le prix. Et donc, je sais aujourd'hui que je suis une nouvelle création. Je suis renouvelé. Dieu me voit sans péché. Donc, c'est ça, confesser son péché. C'est que, en confessant le péché, je vais en même temps, sans m'en rendre compte, mais c'est un principe spirituel, l'isoler, le séparer de moi. Et du coup, je n'aurai plus à porter le poids de ce péché, parce que Jésus l'a porté. Et le sang de Christ me purifie ma conscience, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux. C'est pour ça que la confession, c'est pas simplement un acte de contrition, vous savez, où on paye un prix pour essayer de racheter quelque chose qu'on a fait dans le passé. Non, la confession, c'est une bénédiction pour nous. C'est-à-dire que ça nous permet d'établir, pas nous, mais Dieu permet qu'il y ait une distance. C'est un peu comme lorsque dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le tabernacle ou dans le temple, lorsque le croyant apportait l'animal, vous connaissez tout ce principe, il posait la main sur l'animal et ensuite il confessait ses péchés et il prenait un couteau, il égorgeait l'animal pour montrer que c'était bien à cause de lui que l'animal mourait. Donc c'est tout comme c'est nous, les êtres humains qui avons envoyé Christ à la croix. Et une fois qu'il avait égorger l'animal, le prêtre prenait l'animal, et nous, Jésus-Christ, il est à la fois notre prêtre et il est à la fois le sacrifice. C'est-à-dire que le prêtre et l'animal étaient ensemble, et le pécheur, lui, il y avait une distance avec l'animal. Et l'animal ensuite était découpé, etc., et le sang était déposé, apporté dans le lieu saint, voire dans le lieu très saint, une fois par an. Et donc, il y avait une distance qui s'installait. C'est-à-dire que le croyant était libéré de son péché. Il était délivré de son péché. Parce que Jésus, et là, en l'occurrence, c'était l'animal, lui, l'animal devenait lié au péché de l'autre. Vous voyez, du maître, si vous voulez, du propriétaire. Et donc, la confession, spirituellement, c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je confesse mon péché, Dieu est fidèle et juste de me pardonner. Pourquoi il est fidèle et juste? Parce qu'il nous l'a promis. Il a promis que le sang de Christ nous purifie de tout péché. Et donc c'est comme ça qu'on avance et qu'il y a une distance qui s'opère entre moi et mon péché, vous et les vôtres, et du coup notre intelligence est renouvelée et on ne marche pas selon une vanité, si vous voulez, qui morbide, qui est des fois quotidienne chez certains, et qui les fait marcher dans les ténèbres. Et donc c'est comme ça qu'on peut avoir la vraie vie, en fait, une vie qui libère grâce à la puissance opérée par l'œuvre du Seigneur sur la croix. Et ça nous permet donc de laisser le péché derrière nous et d'aller de l'avant. Ce qui fait qu'on ne regarde plus nos péchés, on regarde à l'Éternel maintenant. On s'approche avec confiance du trône de la grâce. Et donc, ça m'amène au dernier point, c'est que nous avons besoin, alors encore une fois, le sujet n'est pas exhaustif, enfin je ne traite pas de façon exhaustive le sujet de la souffrance, hein. Je voulais simplement vous communiquer quelques points que j'avais à cœur de partager. Et le dernier point, c'est celui de l'autorité. C'est-à-dire que lorsque nous n'acceptons pas l'autorité de Dieu lui-même ou les autorités que Dieu place sur nos vies, nous avons, il y a de la souffrance. Parce que regardez ce qui s'est passé en Éden. L'autorité, c'était l'Éternel qui l'avait, et Adam et Ève étaient placés sous cette autorité. Et l'autorité, c'était d'obéir à ce qu'il avait demandé, s'occuper du jardin, des animaux, nommer les animaux, etc., et de ne pas manger aux fruits défendus. Que s'est-il passé à un moment donné? Il y avait une parole qui leur avait été donnée, Dieu avait parlé, et donc ils se plaçaient sous cette autorité. Et à un moment donné, ils sont sortis de cette autorité pour se placer sous l'autorité du serpent. Et là, du coup, ils ont eu leur pensée, j'allais dire renouvelée, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire que leur vision de Dieu a changé, la vision d'eux-mêmes a changé aussi, c'est qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir être comme des dieux, alors qu'ils étaient à l'image de Dieu, mais ils n'avaient jamais été appelés à être comme des dieux. Et donc, une parole mensongère a pris autorité sur leur pensée, leur pensée leur a fait croire que le fruit n'était pas ce que Dieu avait dit, et qu'eux n'étaient pas non plus appelés à être uniquement ce que Dieu leur avait demandé d'être. Et conséquence, il y a eu une décision. La décision, c'est de manger du fruit. Et ensuite, ça a engendré de la souffrance. Donc, l'autorité, c'est quelque chose de primordial aux yeux de Dieu. La sienne, bien entendu, mais même celle qu'il délègue. C'est intéressant de voir que le centenier, une des raisons pour lesquelles il a pu avoir sa prière exaucée. Vous vous rappelez, il va au devant de Jésus et il dit « mon serviteur est malade », etc., etc. Jésus dit « je vais y aller, je vais m'y rendre », et le centenier dit « non, il n'y a pas besoin ». Et regardez ce qu'il dit là en Matthieu 8, versets 8 et 9. En Matthieu 8, versets 8 et 9, le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri ». Seulement un mot, c'est une parole, hein, d'accord, c'est l'autorité liée à la parole. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Donc ce centenier, en fait, il est pris en sandwich, je dirais. Au-dessus de lui, il y a des autorités, et lui, une autorité pour les autres, pour d'autres personnes. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. C'est-à-dire que ce centenier a compris à 100% l'autorité d'une parole. C'est-à-dire que quand le centenier parle, le serviteur accomplit. Et donc, il y a une unité entre la parole et l'accomplissement. Lorsqu'Adam et Ève étaient unis à l'Éternel, il fallait pas manger du fruit, ils n'en mangeaient pas. Il y avait une unité entre la parole de Dieu et les actes d'Adam et Ève. Et à un moment donné, il y a une unité qui a changé. Ils se sont unis à la parole du serpent, et l'unité avec la parole du serpent a engendré les gestes ou les décisions qui correspondent à cette unité. Et donc c'est un point important, c'est que le renouvellement de la pensée n'est possible que si nous nous plaçons sous l'autorité de la parole qui va nous permettre de renouveler nos pensées. Ève pensait que Dieu avait caché quelque chose, et il a fallu qu'elle croie ensuite, lorsque Dieu est revenu, vous rappelez, et qu'on lui a proposé la peau d'un animal, et ben, il a fallu qu'elle croie l'autorité de la parole de Dieu, c'est-à-dire que la peau de l'animal suffit pour se présenter devant Dieu et d'être couverte. Et donc, cette couverture que l'homme et la femme avaient, cette protection, était le symbole de la couverture de la parole de Dieu, la couverture de l'autorité. Et ça, c'est un point important. Et regardez ce qui est écrit dans un autre livre prophétique, Zacharie chapitre 10. En Zacharie chapitre 10, c'est une période où il y a, donc c'est le retour sur la terre promise, mais déjà, il y a des gens qui s'écartent, d'accord? Il y a aussi, en plus des peuples païens en terre promise, donc il y a des choix à faire pour les juifs. Et donc en Zacharie chapitre 10, verset 2, il dit « Car les téraphimes ont des paroles de néant ». Les téraphimes, donc c'est des gens qui tiraient au sort, qui lisaient des fois dans le corps des animaux, les abats, etc. Les téraphimes ont des paroles de néant, c'est-à-dire que leur parole, tout comme celle du serpent, c'était néant. De la même manière que les païens vivent selon la vanité de leur pensée, c'est le néant. De la même manière que moi, comme le dit le psalmiste, la vie, hein, je rappelle l'Ecclésia chapitre 2, c'est tout est vanité, c'est néant en réalité. Et donc là, en Zacharie, qu'est-ce que Dieu dit ? Les téraphimes ont des paroles de néant, les devins prophétisent des faussetés, les songes mentent et consolent par la vanité. Là encore, quelque chose de creux, devin. C'est pourquoi ils sont errants comme un troupeau. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a point de pasteur. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que le troupeau, ça nous parle évidemment des brebis qui ont besoin d'un berger. Je vous rappelle que l'animal, il paraît, moi j'ai pas vérifié, mais je crois les commentaires que j'ai pu lire, il paraît que les brebis, c'est un animal qui ne peut pas s'en sortir sans berger. Il va s'en sortir un temps, c'est-à-dire qu'il va brouter l'herbe qu'on lui donne dans un premier temps, mais ensuite, il pourra pas bouger. Enfin, il est complètement... il est inapte, si vous voulez, à une vie solitaire. Il faut que non seulement il soit dans un troupeau, mais que ce troupeau soit conduit par un berger. Et là, pourquoi il peut parler de pasteur ? Parce que les téraphimes ou les devins, ils parlent à la place des pasteurs, ou en tout cas des croyants, des juifs se mettent à écouter ces gens-là plutôt que les pasteurs. Mais en même temps, là, il est dit qu'il n'y en avait point. Et les pasteurs, ça, pourquoi ils sont nommés ici ? Parce qu'en fait, ils sont les relais de la parole de Dieu. Il faut que normalement, eux, dans leur intégrité, ils puissent communiquer la pensée de Dieu. Et c'est comme ça que, ensemble, par le ministère de la parole de Dieu, nous pouvons grandir et être renouvelés dans nos pensées. Et pas uniquement d'avoir quelqu'un qui prêche, évidemment, et qu'on écoute, mais une fois qu'on l'a écouté, de mettre en pratique, si vous voulez, que ce renouvellement de la pensée engendre des décisions qui ne nous feront pas souffrir comme c'était le cas peut-être avant. Je peux vivre un événement douloureux, mais si par exemple je me mets en colère, la colère va me faire souffrir, c'est-à-dire que l'événement me fait souffrir, mais la colère rajoute à la souffrance. Une autre personne va déprimer, donc l'événement c'est une souffrance, mais la déprime rajoute à la souffrance. Et donc ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas évidemment les pensées païennes, ce sont des pensées renouvelées qui nous permettent de ne plus être errants comme un troupeau et ne plus être consolés, mais en fait ça console pas, hein. Les songes mentent et consolent par la vanité. Mais en réalité ce n'est pas une consolation. Lorsqu'on, dans notre tête, ça tourne en rond en permanence ou qu'on essaie d'utiliser des moyens, je dirais presque fallacieux pour s'en sortir, ça, non seulement ça ne plaît pas à Dieu, mais ça ne nous rend pas heureux. Donc le péché est un problème, mais Dieu, par sa parole, nous a promis de résoudre les problèmes du péché. Il l'a résolu de façon ultime à la croix, mais ensuite il nous donne un peu tous les outils qui nous permettent de marcher dans la piété. Il nous a donné tout ce qui contribue à la piété. Et ce qu'il nous donne, il nous le donne et nous le communique, il nous informe de tout ça par la parole de Dieu, qui est une parole de révélation, si vous voulez, qui ouvre notre intelligence, comme il est dit en Daniel 9, on l'a lu tout à l'heure. Et donc, voilà, on peut s'égarer par moments, bien entendu, on peut des fois faire des erreurs, mais à un moment donné, il faut se recadrer, je dirais, et se placer sous l'autorité de Dieu afin de ne plus souffrir comme c'est le cas parfois. Alors, des fois, c'est même dans notre quotidien, dans nos relations avec nos proches, c'est de renouveler, d'accepter le renouvellement de nos pensées afin d'agir et de parler différemment. Et du coup, on enlèvera de la souffrance. Il peut y avoir un mal-être, il peut y avoir des situations qui perdurent, mais au moins le renouvellement de la pensée nous permet d'avoir un regard céleste sur les choses, tout comme Daniel a une vision céleste, alors que, en fait, sa vie n'a pas changé tant que ça. Sa vie a été la même, ça a été une routine, il n'a pas été délivré de sa situation matérielle et géographique, je dirais. Mais en tout cas, spirituellement, il a été renouvelé. Et je pensais à notre pays, là, vous savez, qui vit des choses, on voit beaucoup de haine, beaucoup de confrontations, voilà, c'est conflictuel en permanence. Il y a des divisions en permanence, il y a des divisions dans les familles, il y a des divisions politiques, des divisions scientifiques, il y a de la division partout. Bon, moi, je vois pas d'unité autour de nous. C'est vraiment triste de voir le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est très violent pour l'instant que. Alors dans le pays, c'est peut-être dans les paroles, mais même ça commence à être violent dans les actes. Et je lisais ce passage de Jérémie. Je terminerai là-dessus, en chapitre 3, versets 24 et 25, pour vous montrer comment Dieu permet un jugement sur les nations. En Jérémie 3, versets 24 et 25, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. C'est intéressant, là, comme réflexion. C'est-à-dire que le travail des pères, ça a été de marcher avec le Seigneur et de récolter les fruits de cette piété. Donc, Israël a eu des périodes d'abondance. Mais là, il dit, les idoles ont dévoré. Les idoles, en fait, elles ne peuvent rien faire. Mais c'est parce que les croyants, d'alors, les générations suivantes, se sont tournées vers les idoles. Et c'est ça qui a engendré la misère dans le pays. Donc, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse. Peut-être que notre pays était un grand pays, mais là, les idoles sont en train de dévorer toutes les bénédictions qu'il y avait dans notre pays. Les idoles, ça peut être le matérialisme, les idoles, ça peut être certaines philosophies, l'athéisme, le sexe à tout prix, la puissance, enfin tout. Et du coup, c'est tout ce qui nous éloigne de Dieu, en fait. Les gens ont l'intelligence obscurcie, et donc ils sont en train de spolier ce que nos pères avaient pu faire. Et donc là, il est dit, les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture. Donc là, eux aussi, ils sont pris en sandwich, mais différemment du centenier. Le centenier, il avait une autorité au-dessus de lui et il était une autorité au-dessus des autres. Et donc, il y avait une chaîne de commandement. Mais quand on s'éloigne de l'autorité divine et des autorités que Dieu met en place, regardez ce qui se passe là. Ils ont comme couche leur honte et l'ignominie pour couverture. C'est-à-dire qu'ils sont environnés en fait par le mal et par la souffrance. Car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Vous voyez, quand on n'écoute pas la voix de l'Éternel notre Dieu, on le remplace par des idoles, on remplace par Ève et Adam, ils n'ont rien inventé, hein, ils ont remplacé la parole de Dieu par la parole du serpent. Voilà, c'est tout. Et donc, nous avons besoin en permanence, et ça s'appelle la repentance, la confession, de toujours revenir à la parole de Dieu. Donc, il y a le péché en moi, bah, je confesse que Dieu a vaincu le péché en mourant à la croix pour moi. J'ai fait des erreurs, je vais voir mon frère peut-être si j'ai besoin de le faire et je restaure la relation avec lui. Je prends des décisions en conformité avec les pensées de Dieu. Je fais mienne ces pensées et j'avance dans la piété, et du coup, il y a une forme de souffrance qui existe encore, mais l'éclairage de la parole de Dieu, la lumière qui nous guide, fait que notre souffrance n'est plus vaine. Vous voyez, l'Ecclésiaste lui dit, à quoi ça sert tout ça, tous ces jours passés sur la terre, notre vie est un souffle, c'est que vanité. Job, il dit, j'en ai marre de mon péché, je suis comme un souffle. Le psalmiste dit, j'ai mon péché constamment devant moi, etc., etc. Oui, on peut vivre comme ça. Mais il y a une autre façon de vivre et de dire, non, moi j'ai toujours l'Éternel devant moi. Devant moi, il y a toujours le trône de la grâce. Devant moi, il y a toujours l'espérance. Devant moi, il y a une solution spirituelle. Voilà ce que je veux regarder. Et je veux avoir mon intelligence renouvelée, qu'elle ne soit pas obscurcie, et ce qui fait que je vais plus vivre de manière vaine. La souffrance, du coup, devient d'une certaine manière utile presque. C'est-à-dire que je crois que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et je m'appuie, non pas sur l'expérience que je suis en train de traverser, mais je m'appuie sur Christ, mon rocher. Et ça me permet de d'avoir une vision de ma vie plus élevée, si vous voulez, plus digne, plus haute. Et je me dis, ah, bah, ma vie est ce qu'elle est, mais je sais qu'elle a de la valeur. Ma vie est ce qu'elle est, mais je sais que je suis en train de glorifier Dieu. Ma vie est ce qu'elle est, mais je sais que je peux quand même bénir les autres, même s'il y a des situations difficiles dans ma vie. Pourquoi? Parce que je crois que si Dieu est avec moi, personne ne peut être contre moi, et je décide de ne pas être moi-même contre moi. Vous voyez? Personne ne sera contre moi, parce que Dieu est avec moi. Que Dieu vous bénisse.